RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Story 32-16 pour discuter, pour débattre avec les grandes gueules dans un instant de l'Italie, ce qui se passe en Italie après la Suède. Donc est-ce que les droites françaises doivent regarder ce qui se passe en Scandinavie et chez les cousins transalpins et peut-être faire une union des droites 32-16 donc pour le dire au GG. Mais je vous rappelle pour tous ceux qui sont passionnés par la Coupe du Monde, qui se préparent déjà pour vivre l'épopée de l'équipe de France au Qatar. Et alors là, les amis, on croise les doigts. Si vous voulez assister à un match là-bas sur place, Tunisie-France par exemple, le 30 novembre, on a deux places pour vous. Vol, hébergement, les places, c'est tout compris. Et en plus, vous rencontrez les équipes d'RMC Sport sur place, Jérôme Rotten, l'After. Ils vous feront vivre les coulisses du mondial. Donc, vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16. Et vous partez au Qatar, assistez à Tunisie-France et assistez ensuite aux émissions d'RMC et discutez avec toutes nos équipes sur place. Le mondial, le vivre de l'intérieur, c'est bien avec RMC, c'est mieux. Pour Tunisie-France le 30 novembre, envoyez RMC par SMS au 732-16. Je vous le rappellerai jusqu'à la fin de la semaine parce que le tirage au sort du gagnant, c'est vendredi. Deux places, hein, les copains. En attendant, tiens, on va du côté de l'Italie parler de la victoire de Giorgia Meloni.
RMC, les grandes gueules.
Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise.
Giorgia Meloni et l'Union des droites italiennes qui a gagné ces élections, la Ligue de Matteo Salvini, le Forza Italia de Silvio Berlusconi devrait avoir la majorité au Parlement.
Oui, après la Suède, l'Italie, l'Union des droites arrive au pouvoir, donc c'est 44% des suffrages si on prend cette alliance des droites. Très peu pour la gauche qui subit une débâcle sans précédent en Italie. Giorgia Meloni, ça sera la première femme à accéder au pouvoir en Italie. Il n'y avait jamais eu de femme chef de gouvernement. Elle aura le pouvoir tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Alors, c'est amusant, c'est de savoir comment on réagit en France. Il y a très peu de personnalités droites qui ont voulu réagir ce matin en France. Alors, sauf ceux qui sont partisans pour cette union des droites, comme Robert Ménard, qui applaudit. Oui. François-Xavier Bellamy est un des rares chez les Républicains à réagir en disant que ce n'était pas un parti pro-fasciste, qu'il n'y avait pas 25% de fascistes en Italie, qu'il fallait regarder ça avec intérêt, ou en tout cas ne pas forcément crier au loup. On voit bien que tout le monde est embarrassé à droite, parce que moi, je pense que si tu interroges les sympathisants LR, ils sont plutôt favorables à cette union des droites. Si tu interroges, bien sûr, les représentants LR, c'est une autre chose. Alors est-ce qu'effectivement ce qui se passe en Italie en Suède va arriver en France dans 4 ans et demi?
32-16 pour le dire au GG. Charles, c'est intéressant.
Moi je pense que bien sûr c'est bien sûr on voit ça, c'est-à-dire qu'on il y a des similarités qui sont frappantes. D'abord il y a le RN et Fratelli d'Italia ont le même logo avec la même flamme qui est la flamme du fascisme mussolinienne, hein, quand même. Bon. Et ce sont deux femmes blondes, voilà. Peut-être qu'on y voit des prémices de quelque chose. Je ne trouve pas mes mots quand on fait un rêve.
Prémonitoire.
Prémonitoire, voilà. Peut-être que c'est prémonitoire. Moi, je n'en suis pas convaincu. Je pense que ce qui s'est passé aussi en Italie, c'est que cette Madame Meloni a été extrêmement starisée. À tel point qu'on savait même pas qui était candidat contre elle. On n'entendait parler que d'elle matin, midi et soir. Et elle avait contre elle un candidat très triste qui était Monsieur Letta, qui était vraiment le candidat de l'establishment, de centre-gauche, d'un ennui mortel. Et donc forcément, la politique étant pour une part... Oui, c'est comme si vous aviez Madame Borne contre Marine Le Pen. Bon, la politique, c'est aussi un peu de fun, entre guillemets.
Quand,
il faut
quand
que
la droite
quelque chose.
Finit, elle arrive au pouvoir.
Alors peut-être, moi franchement d'abord je constate que c'est, pour ce qui est en tout cas de la France, le RN, une droite qui ne sort pas du tout de la cistana d'échec, c'est une droite qui est dans un état-providence extrêmement prononcé, donc ça lui fait quand même des différences avec la droite dite républicaine qui est davantage favorable à une réforme de l'État. Et ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il est impossible de s'entendre entre la droite et l'extrême droite. Mais je dirais quelque chose qui va peut-être choqué, c'est que je pense que malheureusement, et ce sera peut-être responsable de ce qui nous arrivera si jamais Marine Le Pen est élue dans 5 ans, les progressistes n'ont pas attendu l'extrême droite pour se comporter comme l'extrême droite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'extrême droite? C'est des violences policières, c'est une forme d'autoritarisme intellectuel, c'est un petit climat de censure dans les médias, c'est des brutalités contre les populations faibles, par exemple les migrants, les SDF. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Des violences policières, un certain autoritarisme intellectuel, un climat de censure dans les médias, des brutalités contre les migrants. Donc forcément, si vous-même, quand vous êtes au pouvoir et que vous vous dites progressiste et que vous passez votre journée à dire que votre combat, c'est de faire baisser l'extrême droite ou de l'empêcher d'arriver au pouvoir et qu'en fait, vous vous comportez comme elle, eh ben, les gens font pas la différence et donc au coup d'après, ils mettent l'extrême droite. Surtout si vous tuez l'alternance, comme l'a fait Monsieur Macron, qui a dit il n'y a plus de droite et de gauche, il y a des gens raisonnables et des excités. Ben, au bout d'un moment, les gens ont envie de changer et quand ils ont fait le tour des gens raisonnables, ils passent aux excités.
Mais il a raison, Charles. D'ailleurs, comment est-ce que la Macronie, et pas que la Macronie, parce que j'ai lu un très long papier, une enquête très intéressante dans Le Monde, d'ailleurs, sur la question, ils interrogeaient des chercheurs et des Italiens, etc., sur le mot fascisme, et c'est unanime. Même le journal Le Monde dit, on ne peut pas la qualifier de fasciste.
Pourtant, quand tu entends ce matin les responsables de gauche, le fascisme est à nos portes,
et alors, voilà.
Les heures les plus sombres
et bien,
de notre
voilà.
histoire.
C'est pour ça que je vais t'éclairer, Charles, parce qu'il y a deux grands fondamentaux de ce camp progressiste qui leur permet de définir la ligne entre le fascisme et eux. Sont les deux piliers qui leur permettent de dire que Giorgia Meloni est fasciste, c'est que elle serait contre les droits LGBT et elle serait pour réguler l'immigration. Donc on comprend donc que les grands piliers du progressisme macronien, c'est la question des droits LGBT et de ne pas réguler l'immigration. Donc là, je pense que si la Macronie se met sur ces deux piliers-là, c'est même plus qu'ils vont vers l'échec, ils vont vers la phase finale.
Et surtout, il faut simplement préciser qu'elle est atlantiste, elle est plutôt assez pro-américaine. Mmh. Contrairement à Marine Le Pen, elle soutient sans condition l'Europe contre la Russie.
Exactement.
D'ailleurs, elle a dit qu'elle ne reviendrait pas sur les sanctions. Il y a quand même des différences entre
Il y a des différences
Mélanie
par ailleurs.
Et Marine Le Pen.
Moi, juste, je dis un mot, par contre, je pense qu'Ursula a passé une mauvaise nuit et rien que ça, c'est un bonheur pour moi. C'est-à-dire, ce matin, je me suis dit,
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Oui, parce que je l'appelle Ursula, moi, c'était ma copine, que Ursula passe une mauvaise nuit, déjà ça, je suis contente. Maintenant, Fratelli d'Italia a...
Il faut expliquer pourquoi.
Parce qu'elle est trop pas contente.
Non, mais
il y a la Pologne, il y a la Hongrie, il y a la Suède.
Ursula von der Leyen a rappelé avant le scrutin que l'Europe disposait d'instruments éventuellement pour sanctionner l'Italie si elle mettait au pouvoir la coalition de droite.
Non, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Cette femme-là, on ne le répétera jamais assez, jamais élue. Cette Ursula von der Leyen, on ne lui doit rien. Elle doit tout à nos gouvernements. Nous, on n'a pas élu cette Ursula.
Elle est élue quand même par le Parlement européen.
Elle est élue par elle et tout.
Non, mais elle peut pas.
Par contre, elle ouvre son bec tous les 5 minutes.
Elle est élue au suffrage universel direct, mais elle est quand même élue.
Non, mais soit c'est le peuple qui a le dernier mot. Oui. Et dans
on
ce cas-là,
est d'accord.
Elle
ne
peut pas dire ça avant les élections.
En Europe, il y a encore des nations, il y a encore des gens qui, il y a encore des régimes, il y a encore des institutions et des élections et les peuples votent encore comme ils veulent. Maintenant, c'est sûr, ça leur fait 4 pays qu'elle a en travers de la gorge. Je veux juste dire une chose. Fratelli d'Italia n'a jamais fait partie d'aucune coalition. Parce que le Berlusconi, il est quand même aux fraises. Le Salvini, il s'est quand même pris une grosse baffe. D'accord? Parce que là, il a fait un score lamentable. Oui. Et la plupart des Italiens le disent. Il y en a qui ont voté pour elle parce qu'ils sont d'accord avec cette idée, mais il y en a aussi qui ont voté pour elle en disant, écoutez, c'est la dernière qu'on n'a pas essayée.
Oui,
c'est la dernière qu'on n'a pas testée. On y croit. Eh ben voilà.
Mais Barbara. C'est exactement ce qu'on va faire en France, parce que les partis traditionnels, je sais que ça va pas plaire à notre ami Charles, mais ils sont complètement à la rue. Ça veut plus où aller. La droite, elle est perdue. La gauche, n'en parle pas. Elle est dans
et
les
Renaissance,
catacombes.
C'est pas totales. Un parti traditionnel, justement.
Oui, non, mais si tu regardes de façon globale, les partis traditionnels sont totalement à la rue parce qu'il y a des problèmes d'ego et de tout ce qu'on peut imaginer dans ces partis-là. Ça, c'est une chose évidente. Moi, je le vois localement. Quand je pense que dans mon fief d'Occitanie, Aude et Pyrénées-Orientale, qui était un fief socialo-communiste à bloc, 7 députés du Rassemblement national qui sont élus.
Ah oui.
Le ancien président du département, à qui j'envoie un tweet en lui disant « Putain, il faudrait vous remettre en question ». Il dit « Non, mais c'est pas la question, non, c'est pas tout à fait ça, le problème de la politique de gauche, etc. » En gros, on a 7 députés qui sont arrivés en bas en Occitanie, et ça ne fait que grandir. Remarquez que depuis 20 ans quand même, depuis l'avènement de Jean-Marie Le Pen et maintenant avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on a un parti qui, à mon avis, Jordan Bardella.
Oui, Jordan.
Il a dit Jordan.
Jordan,
l'américain.
Donc, si tu veux, c'est, ce parti-là va arriver au pouvoir. Et c'est quasiment sûr. Juste sur les problèmes de immigration et sécurité. Madame Le Pen, on l'entend pas, elle est tranquille, elle attend que ça se passe.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Fratelli
d'Italia.
Fratelli d'Italia est désormais majoritaire dans le nord du pays. Mm-hmm. Ouais. Là où c'est.
Bien
donc,
sûr.
Pas seulement dans les zones
oui,
les
mais
plus,
est-ce
les
que,
plus en
est-ce
difficulté.
Que, est-ce que aussi ils ont pas. D'abord, moi je pense qu'il y a vraiment un truc fondamental qui est l'alternance. Quelle est la différence entre Renzi, Matteo Renzi, le jeune et sémillant premier ministre de centre-gauche, et Mario Draghi qui est juste un peu plus vieux et qui est moins qui est plus triste sur le plan des non mais sur le plan des idées ce sont exactement
aucune
les mêmes
différence.
Donc c'est ça aussi le problème, c'est que quand il y a plus de différence entre la droite et la gauche, quand on vous explique qu'en fait les gens raisonnables peuvent se rejoindre, etc., l'alternance ça devient l'extrême droite. C'est pour ça que moi je trouve ce en même temps qu'on a en France depuis maintenant un certain temps, cette histoire de grand bloc central.
Ça a permis à Macron d'être élu aussi.
Oui, ça,
à chaque fois contre la même.
Peut-être ça fait ses affaires à lui, mais ça fait pas les affaires de la France, à mon sens, parce que ça veut dire que l'alternance, ça va devenir l'extrême droite. Et d'ailleurs, Marine Le Pen ne s'y est pas trompée, oui, puisqu'elle a sorti un nouveau slogan.
Charles, tu tournes autour du pot. Non. Parce que la question, elle est posée. Est-ce que les LR doivent s'associer
moi,
avec
je pense
RN
pas.
Pour remporter le pouvoir dans 80
ans? Attends, n'oublions pas une chose. Attention, en Italie, il faut pas trop comparer la politique italienne à la politique française, parce que ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, en Italie, Salvini, quand il a été président du Conseil, c'est parce qu'il s'était allié, ça ressemble au Rassemblement National, là, davantage que Fratelli d'Italia, s'était allié au mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire un espèce
Grillo,
de...
Ouais,
BP Grillo. On va pas dire que c'est LFI, mais bon,
oui,
ça,
c'était
un petit peu style Mélenchon. Voilà. Mélenchon Coluche, un peu. Bon. C'était un attelage absolument improbable. Et d'ailleurs, cette coalition a fini par exploser aussi. Donc attention aussi aux coalitions improbables. En France, je ne dis pas que LR, RN, ça serait improbable, parce que je pense qu'il y a des gens chez LR, excuse-moi, mais François-Xavier Bellamy, Ciotti ou Wauquiez ont des choses à voir avec le discours aujourd'hui du Rassemblement National, de Jordan Bardella. Maintenant, je suis d'accord, Aurélien Pradier et d'autres, c'est sûr, ou même toi, forcément, au RN, je ne vois pas bien ce que vous auriez
non,
fait.
Non, c'est pas ça. Moi, ce que je dis,
la question.
Bah, moi, je te dis que non, si, ma réponse, c'est non. Moi, je ne pense pas
que... Eh bien, le RN ira au gouvernement tout seul et vous n'y serez pas, c'est tout.
Parce que je pense... D'abord que l'extrême droite a une histoire, je suis désolé, et qu'elle est assez récente.
Pourquoi
en France.
Pourquoi vous faites pas la NUPES de droite?
Et qu'elle est assez récente en France et qu'on n'a pas envie de la revivre. Ensuite, parce que le RN n'est pas un parti réformateur, c'est un parti qui explique toujours aux Français qu'ils ne sont pour rien dans ce qui leur arrive, que les coupables ce sont soit les immigrés, soit les fonctionnaires européens, alors que moi je pense que les Français, on doit se retrousser collectivement les manches, donc ça n'est pas le même projet. Et je pense enfin que l'extrême droite est forte quand la droite est faible, quand quand elle ne fait pas un travail offensif élaborer son programme et pour le
Charles,
défendre.
Au rythme où vous allez, en 2027, le Rassemblement National gagnera seul, sans aucun problème, il gouvernera seul et n'aura absolument même pas besoin de vous comme d'une variable
on
d'ajustement.
Verra,
on va écouter Romain qui nous appelle du 15e arrondissement de Paris. Bonjour Romain.
Oui, bonjour à tous.
Est-ce que les droites doivent s'allier alors et faire comme en Italie?
En fait, je pense pas. Je pense que le Rassemblement National n'a pas besoin d'attendre que les droites se rallient à elle. Je pense que le Rassemblement National va être de plus en plus fort et que malheureusement, le fait que les représentants des Républicains aient du mal à parler de ce qui se passe, c'est-à-dire d'insécurité, d'immigration, de problèmes de la justice.
Ils parlent que de ça.
Toutes ces choses-là. Quand j'entends Charles Consigny qui passe beaucoup de moments à nous dire que la justice est extrêmement sévère et que les policiers, notamment de la BAC, sont très méchants, je comprends que les Républicains en soient là aujourd'hui. Donc,
renseignez-vous.
Je vois le quotidien. Moi, j'ai ma gamine dans le 15e qui a été agressée au mois de juillet au parc André Citroën, d'accord, par des racailles qui habitent à côté des logements sociaux de Citroën. Mmh. J'ai été porté plainte au commissariat le 6 juillet. Je suis tombé sur un pauvre policier tout seul dans le 15e rue de Vaugirard qui a pris ma plainte à minuit. Ma plainte, ils ont arrêté 4 personnes. Tout le monde a été relâché parce qu'ils avaient moins de 13 ans. C'est le commissaire qui nous a expliqué ça.
En même temps, moins de 13 ans, on n'allait peut-être pas les mettre en taule à 12 ans.
Je ne sais pas, mais en tout cas...
Non,
la seule
je suis
réponse,
désolé, on trouve autre chose quand même.
On va alors continuer de
mais
dire...
Mais Romain, vous trouvez qu'à 12 ans, il faut mettre les gens en prison?
Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction, ça c'est clair.
Oui, mais en prison?
Je dis pas qu'ils ont été lâchés. Je dis en garde à vue pour qu'au moins les parents soient obligés d'aller venir les chercher au commissariat.
Il y a des centres éducatifs, il y a de ce qu'il faut. Pour...
Et surtout que
donc faut les mettre, faut les sortir de leur famille à 12 ans, faut les mettre.
Oui, mais après il faut une sanction.
Ah, mais d'accord. Laissez finir Romain, allez-y.
Charles.
Non, pour dire que je constate et que beaucoup de gens constatent au quotidien, parce que c'est la réalité, que la justice, alors je ne sais pas si elle est trop, si elle n'est pas assez sévère, s'il n'y a pas assez de monde. En tout cas, elle, j'ai aucune réponse. Moi, j'ai ma gamine de 10 ans qui a été tabassée par des gamins de 12 ans, de 13 ans. J'ai porté plainte au mois de juillet et personne ne m'a appelé depuis. Que ça soit le maire,
qu'elle soit inopérante, c'est autre chose.
Non, mais c'est intéressant parce que Romain, vous, votre raisonnement, c'est de dire il est temps qu'arrive au pouvoir, finalement, une politique qui soit dur et qui soit auprès des citoyens.
Quoi. Voilà. Je me dis simplement que ça fait 40 ans qu'on vote pour des gens très très intelligents et dans tous les médias, on nous dit de voter pour ces gens-là qui sont très très intelligents et qui sont les gentils par rapport aux méchants d'extrême droite.
Voilà, non mais c'est ça, Romain, on vous a surtout demandé de faire
un peu moins.
Non mais parce que Romain, on vous a surtout demandé de faire obstacle au fascisme. On vous a expliqué qu'Hitler était de retour, donc c'est surtout
voilà,
ça le
mais
problème.
Moi, j'ai 40 ans, j'ai pas connu Hitler, si vous voulez. Et ce que je vois, et je me suis rendu par curiosité, j'ai fait des meetings.
Ça comme réponse. J'ai 40 ans, j'ai pas connu Hitler.
Alors non mais Charles, je vais me permettre de dire quelque chose. J'adore la politique. Et je me suis rendu à des meetings. Alors ça va de la France insoumise jusqu'à Zemmour, par curiosité pour voir comment ça se passait un meeting. C'était la première fois que j'y allais. Je vous rassure, j'ai pas vu de poster d'Adolf Hitler dans les meetings de Marine Le Pen. Qu'on soit clair, j'ai entendu des discours plutôt banals, mais plutôt qu'aller dans le bon sens. Donc pour moi, l'extrême droite, c'est pas du tout Marine Le Pen qui l'incarne.
Ni Mussolini en Italie, mon cher Romain, si je suis votre raisonnement. Romain, après vous, on verra ce qu'en dit Sébastien, qui nous appelle, du Var. Romain était 15e arrondissement parisien. Est-ce que les droites ont intérêt à s'allier pour reprendre le pouvoir, comme ça a été le cas en Suède, comme c'est le cas en ce moment en Italie? Bien, la discussion continue avec les GG, avec les Grandes Gueules. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC. On parle du résultat des élections en Italie. Est-ce que les droites doivent s'allier? C'est Sébastien qui est avec nous. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le Var. Vous faites quoi dans la vie, Sébastien?
Je travaille dans les pompes funèbres.
Ah, il y a du boulot en ce moment?
Non, c'est calme.
Ça claque un peu ou pas?
Non, c'est calme.
Un petit Covid là pour relancer l'activité Sébastien.
Il y a moins de morts que d'habitude,
parce
que le Covid.
Ah oui. Juste derrière Alain, pour ceux qui sont sur RMC Story, on voit Berlusconi. Je peux vous dire qu'il a presque un pied dans la.
Il est en pleine forme.
Il est embaumé déjà.
Il est déjà embaumé, exactement.
Mais il n'est pas mort.
On dirait le statut du musée Grévin.
Bon, allez, on revient à notre sujet de discussion.
C'est impressionnant.
Pour
c'est
ceux
impressionnant
qui sont pas sur RMC Story, Berlusconi, en fait, il ne peut que sourire maintenant, parce qu'il est figé.
Oui,
85 ans,
dis-donc. Oui. Alors, Sébastien, est-ce que les droites doivent s'allier ou pas en France?
Non, à mon avis, à force de nous parler comme à des gamins et puis à force de nous prendre pour des abrutis, je pense qu'un jour ou l'autre, ça se produira sans la droite, sans les autres droites, pardon. Voilà.
Ah oui, vous êtes un électeur de droite?
Le RN tout
non,
seul.
Non, moi je suis électeur de Marine Le Pen.
D'accord, voilà. Oui.
Elle ne me fait pas peur du tout. On est toujours en train de dire que c'est des extrêmes, mais comment on peut le savoir parce qu'on n'a jamais essayé.
Ah, ça, c'est un des arguments qui était développé en Italie. Ouais. On n'a jamais essayé une femme, puisqu'il n'y avait jamais eu de femme chef de gouvernement. Et on n'avait jamais. Mais est-ce que c'est un argument suffisant de dire on n'a jamais essayé?
Non, c'est sûr. Mais à force de toujours voter contre et non pas pour, on a bien ce qu'on mérite aujourd'hui.
Est-ce que vous voudriez que Marine Le Pen s'allie avec, je ne sais pas, Laurent Wauquiez, par exemple?
Non, pas spécialement.
Non.
Non. Moi, je pense que au fil du temps, si c'est pas Marine, ça sera peut-être une autre personne du RN qui, à un moment donné, deviendra président. Quoi. Voilà,
alors, ce qui est intéressant, c'est comme vous disiez, on les a jamais essayés. Maintenant, c'est de voir ce que va faire Giorgia Meloni et faire cette alliance des droites, parce que ils ont été élus sur une réduction de l'immigration, un contrôle notamment des eaux italienne pour éviter que les bateaux ne débarquent, une politique familiale, alors un respect de l'Europe telle quelle, mais même si cette coalition est plus pour une Europe des nations chrétienne, effectivement, avec des valeurs.
C'est toujours, je suis chrétienne, je suis repentie,
alors,
je suis chrétienne.
Il y a eu des scissions au sein du mouvement, notamment sur toute la question de l'avortement, mais il y a une espèce de consensus.
Elle a dit qu'elle ne remettrait pas en question le droit à l'avortement.
On ne remettra pas en question le droit à l'avortement.
Alors, elle n'est pas pour la GPA, après, pour les homosexuels.
Le problème italien, c'est pas celui-là.
Ils ont été réélus sur une réduction massive des impôts en Italie, avec un déficit qui est à 150% du PIB.
L'Italie, il faut quand même préciser qu'économiquement, c'est l'un des pays malades de l'Europe. Nous, on n'est pas très bien.
Juste derrière la Grèce.
Voilà, mais nous, on n'est pas très bien non plus. Mais donc, il y a aussi sans doute des problèmes économiques à régler.
Mario Draghi,
avec une fracture dans le pays entre l'Italie du Nord et l'Italie du
Sud. Qui a voté pour elle.
Mais qui faisait le Renzi? Qu'est-ce qu'il a fait, le Draghi? Non, mais excusez-moi, vous avez eu les plus gros européistes qui passaient leur temps à serrer les vis, à essayer d'imposer justement à l'Italie des systèmes qui ne fonctionnaient pas avec le modèle italien. Encore une fois, je comprends que l'Union européenne ait du mal avec la notion de nation et d'identité des peuples, mais chaque peuple a sa façon, chaque nation a sa façon singulière de concevoir un certain nombre de réformes. Eux, ils décident à Bruxelles, ils ont décidé que tout le monde devait fonctionner sur le modèle allemand, voire néerlandais. Non, désolé, on ne fonctionne pas tous comme les Néerlandais. Très bien pour les Néerlandais, grand bien leur face. Les Allemands, grand bien leur face, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. Les Italiens, c'est une façon, les Portugais, une façon, les Français, une façon. Donc, la question de cette Union européenne qui tient encore par des bouts de chandelle, je vais vous dire, la chance de Ursula von der Leyen et de tous ces européistes-là, ça a été le Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Parce que tout ça, ça leur permet de continuer, parce qu'ils ont le robinet à pognon, de maintenir un équilibre qui est complètement, en réalité, complètement en train de s'effondrer. C'est en train de s'effondrer.
Barbara, tu noteras quand même qu'en Europe,
merci, Sébastien.
En Europe, il y a quand même des points communs. Là, comme chez nous, la participation est en baisse.
Ouais,
fortement.
64%.
Voilà, je crois que c'est quasiment un record.
Ouais,
comme chez nous, c'est effectivement on va dire la Marine Le Pen italienne, même si on peut pas complètement faire des comparaisons, mais quand même, comme en Suède, on voit quand même que ce mouvement-là est en train de progresser en Europe. Et que la social-démocratie s'effondre. Alors à part l'Espagne qui a plutôt voté à gauche, là la social-démocratie italienne s'effondre, comme elle s'est effondrée en France. Donc il y a quand même, pour le coup, tu dis oui, chaque pays est différent. Ben là, pour le coup, il y a quand même des points communs
de l'Europe. Mais c'est ce que je vous dis
entre ces démocraties.
Que ce qui s'effondre,
là,
ce qui s'effondre, c'est ce modèle de société liquide, cette espèce de blob de l'Union européenne, cette espèce de truc unicellulaire, ça n'existe pas. Vous savez ce que c'est, le blob? C'est ni un végétal, ni un animal, ni rien du tout. C'est un être vivant, mais unicellulaire. Ben, l'Union européenne, c'est ça. Elle croit que l'Europe, c'est un blob. Non, c'est pas un blob. C'est un ensemble de nations. Et encore une fois, et toi, Charles, qui est à LR, tu devrais réécouter. Tu devrais prendre 3 heures et écouter le discours de Seguin à l'Assemblée nationale en 92 sur Maastricht. Il avait tout. C'est tout.
Mais excusez-moi.
Mais écoute son discours sur Maastricht.
Je suis désolé, ça sort du cœur, mais tous ces gens qui nous déterrent Seguin. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, à mes yeux, c'est le fruit d'un travail patient et difficile de ceux qui ont voulu constituer cette Union européenne pour que d'abord les pays entre eux ne se fassent plus la guerre et pour qu'ensuite ensemble ils arrivent à peser face à la Russie, face à la Chine ou face aux États-Unis. Donc moi je pense que c'est une magnifique construction qui nous préserve autant que faire se peut de nos outrances et de nos fièvres à échelon national, notamment par exemple sur la dépense publique. Ou sans l'Europe, je pense qu'on aurait fait faillite en France depuis longtemps, tellement on a la dépense facile. Mais là, ça y est, Macron s'est affranchi de tous les standards européens. Donc on va aller vers cette faillite grâce à lui. On le remercie. Je pense que l'Europe, c'est au contraire très précieux et que c'est extrêmement facile de taper sur l'Europe pour lui imputer je ne sais quel de nos problèmes. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi l'Europe est responsable d'un quelconque problème, soit de l'Italie, soit de la France, soit par exemple de la Grèce, à qui elle a imposé des plans de rigueur difficiles. C'est des pays qui n'étaient pas rigoureux, qui dépensent leur argent n'importe comment. En Grèce, les impôts...
Tu demanderas par exemple à des agriculteurs...
En Grèce, les impôts, elle leur donne la PAC. Elle leur donne des dizaines de millions d'euros tous les ans.
Qui ne compenseront jamais les dégâts du libre-échangisme. Et cette mondialisation catastrophique.
Mais la mondialisation, elle a sorti des centaines de millions de gens de la misère à travers la planète. Mais c'est à nous de nous emparer aussi. Mais excuse-moi, en France, on est un des pays d'Europe, on est sans doute le pays d'Europe qui a le plus de sociétés installées à l'étranger, qui fonctionnent à l'étranger. On exporte des voitures, on exporte des supermarchés, on exporte des médicaments, on exporte des armes, malheureusement.
Tu me reparles de la balance commerciale française. Sur Google, elle est largement déficitaire. Parce qu'on crée pas,
c'est pas des produits qu'on produit forcément sur le sol français.
Voilà donc.
Mais ce sont des entreprises
françaises. Des ouvriers ailleurs, ça s'appelle de la délocalisation.
Mais parce que, ma chère Barbara, mais parce que le prix d'un ouvrier français, excuse-moi, tu n'atteindras jamais. D'abord, quand tu implantes un supermarché en Chine, tu vas pas faire travailler des salariés en France pour faire tourner ton supermarché en Chine. Tu vas mettre des Chinois. En revanche, tu vas en tirer des bénéfices en France. J'invite nos auditeurs à taper sur Google. Vous tapez entreprise française leader dans leur domaine dans le monde. Et vous avez 40-50 domaines dans lesquels ce sont des entreprises françaises qui sont leaders.
Mais comment se fait-il qu'elles ne sont pas leaders ici, qu'elles ne font pas travailler des gens ici,
parce que
qu'elles
ne
permettent pas de refaire un tissu industriel
à cause de gens comme toi qui veulent pas réformer les retraites, par exemple.
C'est au contraire des gens comme toi qui ont favorisé la mondialisation et le libre-échange.
Les forces d'inertie se lèvent tout de suite, Bayrou, toi.
C'est pas des forces d'inertie, c'est le système
de train qu'on a eu au
système que tu défends, c'est le système qui nous a mis dans le mur.
Qui ne veulent rien changer.
Qui l'environnement.
Qui ne veulent rien changer jamais. Arrêtez de parler en même temps que je parle. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous quand je parle pour la France. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement?
Silence pour la France.
Silence pour la France.
Voilà. Mélenchon qui me
donc, taisez-vous, El Kabash. Tu sais, c'était comment il s'appelait,
Marchais.
Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Non, mais nous sommes. Alors attends, on va écouter Christophe qui nous appelle du Var. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour. C'était à propos de l'union des droites.
Mais justement, allez-y, Monsieur Christophe.
Voilà. Moi, je dis que dans l'absolu, ça pourrait être une bonne chose. Mais le problème qu'il y a par rapport à la vision qu'on a de nos hommes et femmes politiques en France, c'est qu'il risque d'y avoir un combat de coq et de poule.
Oui.
Pour avoir le pouvoir. Pour être le chef de la droite. C'est ça le problème.
Bah, les égaux,
le chef de file. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour une alliance, mais il veut être le chef derrière l'autre.
Voilà, mais chacun veut être le chef de file. C'est ça le problème. C'est ce que je crains. Et par contre, il faudrait que notre droite s'inspire de ce qui est en train de vivre la NUPES actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire l'union des gauches pour passer au pouvoir, mais le problème c'est que maintenant ils se tirent tous dans les pattes. C'est ça le problème.
Et donc vous voudriez une NUPES de droite qui irait, donc si je comprends bien, des Républicains au RN.
Possible à l'absolu, ce serait l'idéal, ce serait bien, mais qui va être le chef de tout ça?
Mais
c'est
oui.
ça le problème.
Vous savez,
aujourd'hui, ça serait Marine Le Pen, puisqu'elle a plus de députés.
Non, mais vous avez raison sur un point, Christophe. Ne doutez pas, hein. Giorgia Meloni, Berlusconi et Salvini, ils s'entendent pas du tout. Ils se détestent aussi. Donc, leur coalition.
Comme la NUPES à gauche.
Leur coalition, elle risque. C'est pour ça, d'ailleurs, que Giorgia Meloni a un avantage. C'est comme elle a gagné largement et que Berlusconi et Salvini sont quand même aux fraises. Elle est vraiment la leader. Donc, je suis quand même d'accord avec Christophe. Dans une union, il faut quand même qu'il y ait un fort. Oui. Et okay, c'est vrai que dans la NUPES, le fort, c'est Mélenchon.
Oui, alors, Mélenchon, personne n'a voulu se mettre derrière lui.
Allez-y, Christophe. Ah. Allez-y.
Oui, non, je disais, la NUPES, ce serait bien comme ça. Mais là, de toute façon, là, c'est le résultat de M. Mitterrand. M. Mitterrand, tout le monde sait qu'il a fait monter le Front National pour pouvoir scinder la droite. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la politique de M. Mitterrand.
Oui, enfin, depuis quand même, il
a coulé sous les deux lots. Oui, mais justement, et le Rassemblement National
est en haut. Oui, on ne peut pas toujours dire ça.
Je ne crois pas dans mon cœur. Par contre, je me permets de laisser un message. Je me permets de laisser un message à mes petites chouchous des grandes gueules. Il y a Zorabitan, Johnny Blanc, Didier Giraud et Mourad.
Ah, ils ne sont pas là.
Ils sont pas là, mais bon, je les apprécie tous, mais les quatre là en particulier quand même. Voilà, Zora, surtout, c'est une guerrière. Est-ce qu'elle est en train de vivre? Ben, on essaie de la soutenir parce que voilà.
Elle était avec nous vendredi, super, Zora, et on l'embrasse encore. Mourad était là aussi. Mais Johnny reviendra bientôt et Didier Giraud. Je me demande s'il est pas là demain d'ailleurs. Didier Giraud, non, il sera là après.
C'est l'exemple même du bon sens paysan, voilà.
Mon cher Christophe, merci d'avoir été vous aussi avec nous, d'avoir complété notre discussion. Comme en Italie, une union des droites, en France, voyons quel est votre sentiment, ce que vous en pensez, c'est la question qu'on vous a posée, mais c'est un oui.
Ah oui.
Vous voyez, c'est un oui à 72%.
Je pense que ça le mérite d'être clair.
Je pense que 1500... les électeurs de droite sont favorables, le problème c'est que les dirigeants de la droite, part Zemmour et Le Pen, ne sont pas favorables.
C'est 1500 personnes qui ont voté sur Twitter en l'espace de 20 minutes.
Je pense qu'en 2027, ça va être difficile. C'est difficile de refaire le même coup que 2017 et 2022, la sérénade.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les indiscrets politiques, les indiscrétions politiques, et puis le quiz des GG.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules qui, vous savez, tous les jours vous proposent un sujet de discussion. À vous de choisir tout à l'heure à 11h, là dans 20 minutes. Est-ce qu'on doit renoncer aux illuminations de Noël au nom de la sobriété énergétique ou préférez-vous que l'on parle de la fermeture des bureaux de poste, notamment à Paris et partout en France? C'est sur rmc.fr que vous choisissez le thème de discussion et puis on en discute ensemble. En attendant, on y va pour les indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Les petites indiscrétions du service politique d'RMC avec Pierrick Bonneau aujourd'hui. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Et on va parler avec vous des reconversions des députés battus en juin dernier, trois mois après avoir quitté l'hémicycle. Alors que sont-ils devenus?
Je vous sens un peu inquiet.
Oui.
Mais je vous rassure.
Ça me taraude.
Je vous rassure, sur la centaine de députés sortants qui n'ont pas été réélus, très peu sont encore au chômage aujourd'hui. Dernier recrutement en date, celui d'Éric Diard, ancien député LR des Bouches-du-Rhône. Il va devenir début octobre directeur général adjoint de la région Sud, titre un peu pompeux pour un job de coordination. Du lundi au vendredi est mieux payé qu'à l'Assemblée, selon l'intéressé. La région Sud, vous savez, c'est la région de son vieil ami Renaud Muselier, qui a pourtant quitté les Républicains avant les régionales pour se rapprocher d'Emmanuel Macron. Mais qu'importe, du côté de la majorité, un certain Bruno Quetel, avocat de formation, vient d'intégrer le barreau de Paris. Quant au LR, Julien Aubert, il a lui retrouvé son fauteuil à la Cour des comptes, son job d'origine, avant, dit-il, de trouver quelque chose de plus rigolo dans le privé. Je vous avais dit, pas d'inquiétude.
Hein. Et alors, est-ce que ça leur manque, le Palais Bourbon, du coup?
Alors, pas vraiment. Je pensais que j'allais regretter, nous dit l'un d'eux, mais quand je regarde cette espèce d'assemblée où rien ne va se décider pendant 5 ans, je me dis, tant mieux, ça me fatigue d'avance pour eux. Et puis, il y a le travail en circo, en circonscription, qui occupe une grande partie du mandat de chaque député. Et ça ne va pas du tout manquer à cet ancien élu LR qui nous dit, franchement, j'étais à 10-15 événements tous les week-ends dans ma circo. C'est usant, l'Assemblée Générale des Moules Frites, j'ai donné.
Là, t'as vu la manière dont on évoque le travail en circonscription.
C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Un député qui dit, finalement, je suis bien content d'avoir été parce que moi, les moules frites et les comices agricoles, c'est ça mépris. Me complaire. Je trouve que c'est tellement méprisant. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce boulot?
Ils sont déconnectés, d'ailleurs.
Je pense que, il y a beaucoup de gens, quand on fait un peu de télé, etc., on vous propose, des circonscriptions, on vous propose d'être député. Mais, faut savoir dire non parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire dans son planning, capable de faire, de tenir la route. Mais en plus, derrière, aller cracher dans la soupe avec le mépris social, en disant, ah là là, machin, moule frite, je trouve que c'est écœurant et ça montre bien d'ailleurs. Alors ceux qui disent, oh oui, puis alors il va rien se passer à l'Assemblée. Ah moi, je crois qu'au contraire, il va se passer beaucoup de choses à l'Assemblée. Tous ces gens-là, en réalité, ils aimaient bien être à l'Assemblée pour être tranquille peinard dans les petites commissions, pas trop bosser, faire des petits arrangements entre amis à la buvette de l'Assemblée pour signer quelques petits trucs avec Macron ou bien signer quelques petits trucs avec les socialistes en loose day, mais ça vivotait tranquille. Et que maintenant qu'à l'Assemblée, il y a enfin un petit peu de représentation populaire avec la NUPES d'un côté, le RN et que ça va bouger. Ah ben non, alors là, tant mieux que j'y suis plus parce que dis donc, il aurait fallu bosser. Moi, je trouve que c'est sidérant.
C'est lamentable.
Lamentable.
T'as mieux, c'est avec les députés européens, c'est la même chose d'ailleurs, c'est le même schéma. C'est-à-dire que le député, grosso modo, ça ne sert plus à grand-chose quand on regarde bien. Avant, ils avaient, lorsqu'ils avaient ces fameuses enveloppes dont ils pouvaient se servir sur les circonscriptions pour racheter parfois leur mandat d'ailleurs, qu'ils distribuent un peu à tout le monde, à toutes les associations, mais on se rend compte que, encore une fois, quand on entend ces commentaires-là, c'est d'évaluer la fonction même du député. C'est lamentable.
C'est intéressant parce que les élus européens sont élus à la proportionnelle en plus.
Oui,
ils n'ont pas besoin de faire campagne finalement dans leur circonscription.
C'est du cooptation, c'est la magouille politique pure. Mais ce qui est dramatique, c'est ça, c'est qu'encore une fois, on rabaisse ces fonctions-là. Et je trouve que c'est dramatique, encore une fois, pour notre pays de voir qu'on a un paquet de députés qui, en plus, lorsqu'ils quittent un mandat, ont une retraite. Il y a une retraite qui est prévue. Je ne sais pas si c'est pas 1500 euros par mois. 5 ans de mandat pour 1500 euros, ça vaut quand même le coup.
Mais quel regard,
ils le font pas par conviction, la plupart, je pense.
Et alors, justement, quel regard porte-t-il aujourd'hui sur la rentrée politique?
Eh ben, pas très bon. Ils ne mâchent pas leurs mots non plus, quel que soit leur bord politique. D'ailleurs, je suis effrayé, me confiait hier un ancien parlementaire. Le pays est une cocotte minute. Il n'y a plus de débat. Ça va forcément finir par péter. Et ce qui inquiète le plus les députés sortants de tous bords, là encore, c'est l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Oui. La Macronie est morte. Elle ne le sait pas encore, juge un ancien député. Moi, je suis bien content de ne pas être là pour ramasser les morceaux. Voilà ce qu'on nous dit quand on interroge ces anciens députés.
Charles Consigny ?
Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Barbara. Je pense que, au contraire, je pense que ce n'est pas facile du tout d'être député. Ce n'est pas facile de faire une campagne, je peux en témoigner. Et je pense que on accable trop nos élus, ce qui fait que plus personne en réalité ne veut faire de la politique. Et aujourd'hui, les jeunes diplômés des grandes écoles, que ce soit Sciences Po, l'ENA, les écoles d'ingénieurs, des gars dont on pourrait avoir besoin, excuse-moi de pas être de pas faire d'anti-élitisme systématique, et ben ils veulent pas du tout aller à l'Assemblée nationale ni dans les partis politiques, ils veulent aller dans les grandes entreprises.
McKinsey.
Et donc ça fait qu'on se retrouve avec un personnel politique de qualité très faible, avec des gens qui sont avec des ministres analphabètes et autres,
ce qui gêne Charles, c'est pas que les élites en haut.
Mais non, c'est pas ça.
Non,
mon pauvre Bruno, c'est même pas les agriculteurs qu'on a, c'est les apparatchiks. Il y a plus que des apparatchiks en politique.
Au moins, il y a une représentation.
Les apparatchiks, c'est représentatif.
Mais même si c'est des mecs qui parlent peut-être pas très bien, comme tu l'entends, toi, parce que t'es avocat.
Mais je te dis pas qu'ils parlent pas bien. Je te dis qu'on se retrouve avec quasiment des influenceurs au gouvernement. C'est à peu près ça qu'on a aujourd'hui. Je citerai pas de nom, mais franchement.
Mais pas à l'Assemblée. À la NUPES et au RN, tu n'as pas des apparatchiks. T'as des gens qui sont des primos entrants à l'Assemblée.
On se retrouve avec Sandrine Rousseau. Bon, bref. Constatons ensemble quand même que le niveau des hommes politiques, je suis désolé, depuis Malraux, Pompidou, ces gains que tu as cités tout à l'heure, dramatiquement baissé, et c'est aussi parce qu'on s'acharne sur ces pauvres hommes politiques. Moi, j'ai pas peur de dire ça, je pense qu'on devrait un peu leur lâcher la grappe, et s'il y en a en effet qu'on a ras le cul de cette fête tous les week-ends pendant 5 piges, la foire à Neuneux, et ben il a raison de le dire, et il a le droit de le dire, et va te taper ça tous les week-ends, et tu verras si t'en auras pas le bol.
Et
ben il a le droit de le dire, non, et moi je trouve que c'est rafraîchissant.
Différence, Charles. Si tu ne veux pas, parce que tu sais que député, c'est serré la main.
Mais tu leur craches dessus dans les médias. Non. Va voir ce qui se tape au quotidien.
Un de mes meilleurs amis était député LR. C'était un excellent député. Et jamais, jamais, il n'aurait été dire. Ça m'a gonflé d'aller faire. Et pourtant, il y a passé du temps.
Mais tout le monde est gonflé par son boulot.
Mais il l'a fait.
Toi qui es prof, les profs ne passent pas leur journée à dire qu'ils en auront le bol de leur boulot.
Ce que je suis juste en train de te dire, c'est que à partir du moment
alors
où
les
tu
classes, il y a beaucoup d'élèves et on doit préparer nos cours, et on n'est pas bien payé, etc. Ils ont choisi aussi d'être profs.
Mais quand tu dis,
ils se plaignent aussi de leurs conditions de travail.
Le député là, il en a marre d'aller faire
pouvoir. Mais député, c'est représentant de la nation, c'est pas un métier.
En tant que maire, je vais dans les villages aux fêtes de village. Excusez-moi. Ben, ça me fait plaisir d'y aller.
Et ça fait le deuxième mandat. Plaisir. Et là, il y en a un, il en a ras le bol. Il a le droit de le dire.
Un enseignant qui critique les dysfonctionnements de son institution, c'est au contraire,
jamais de sa faute.
Excuse-moi, à mon sens, c'est nécessaire parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, il est fonctionnaire, c'est un métier. Un député, c'est un représentant de la nation pour un temps donné.
Donc on a le droit de lui cracher à la gueule toute la journée.
Pas du tout. Je dis simplement qu'il doit aussi respecter la fonction. Ça n'est pas pareil qu'un métier.
Député, c'est fini.
Politicien, c'est pas un métier.
Ils le font, l'anti-parlementarisme.
Merci
c'est ça,
Pierrick. À demain, Pierrick Bonneau, pour les indiscrétions du service politique du RMC. On va passer au quiz des grandes gueules.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Toujours pas de besoin.
Ça arrive.
Tu as pris la chemise de Lou Gerbier, non?
Ah, non, pas cette fois-ci, mais c'est vrai. Je m'habille de plus.
T'as mis des lunettes? Mais c'est des vrais?
Bien sûr que c'est des vrais.
Ah bon?
Anti-lumière bleue.
Anti-lumière bleue.
Les GG, vrai ou faux, une météo de l'électricité sera bientôt diffusée sur France Télévisions. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. France Télé, en partenariat avec RTE,
c'est l'Union soviétique,
affichera sur ses antennes, le moment venu, la carte de France des niveaux d'électricité disponibles par région. 3 codes couleurs, vert, orange et rouge. Rouge synonyme de coupure inévitable si rien n'est fait pour baisser la consommation. Alors attendez.
C'est la déchéance.
France Télé qui envisage la délocalisation régulière du Trésor de France 2 sur les lieux frappés par la crise. C'est sûr qu'un JT délocalisé, ce n'est pas du tout énergivore. Mais écoutez, tout à l'heure, Olivier, parce que moi j'ai pas Twitter, m'a montré un petit tweet de Madame Borne de ce qu'elle a dit ce matin, chapitre de Malherbe. Oui, peut-être qu'effectivement, quand il fait 15 degrés, vous avez le droit d'allumer le radiateur. Voilà, on en est là. On est dans un pays où c'est la première ministre qui te dit à quel degré t'allumes le radiateur.
On enchaîne. La police du chauffage et la police des ampoules.
Au secours. Quelle chanson reprise en persan est devenue le symbole de la révolte Bella Ciao. Exactement. Bella Ciao, on écoute justement ce petit extrait.
T'as cédé moi. Célèbre chant révolutionnaire italien durant la Seconde Guerre mondiale, reprise donc en persan dans une vidéo par cette jeune iranienne sans voile. Vidéo devenue virale dans le monde entier, déjà 3 millions de vues. Alors qui est cette jeune femme? Personne ne le sait pour l'instant. On ne connaît pas son nom. Ça, vous l'aviez préférable. Vu
Et nous la retrouverons lundi RMC des Grandes Gueules.
C'est préférable pour...
Bah oui, pour elle.
En tout cas, c'est une héroïne, ça c'est sûr.
Les GG, quel ministre s'est fait piéger ce week-end en pensant faire une photo avec un de ses soutiens?
Darmanin.
Exactement, Gérald Darmanin. J'ai
pas vu. Avec IQC?
En déplacement à Versailles, chez toi Barbara, un jeune homme du collectif Ibiza a abordé le ministre pour prendre une photo avant de déboutonner sa chemise et de dévoiler un t-shirt sur lequel était écrit, je cite, « Ça va bien se passer, Darmanin, l'impunité en marche ». Ça va bien se passer en référence évidemment à l'interview avec Apolline de Malherbe. Un autre militant a également accosté Darmanin en lui disant « Écoutez bien, tendez l'oreille ».
Je veux vraiment vous remercier pour votre action sur les violences faites aux femmes. Moi, je fais comme vous, une pique contre un service. C'est vraiment super.
Vous avez bien entendu.
Vous voyez qu'à Versailles, c'est vachement. C'est chaud Versailles.
Franchement, je
pas
suis
les bourgeois.
Mais non, mais je veux dire, la justice, c'est quelque chose qui existe. Sauf erreur, Gérald Darmanin a vu son affaire classée. Il y a eu des interrogatoires, des auditions de la plaignante, une confrontation entre elle et lui. L'enquête a dit qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Donc franchement, je trouve que c'est un peu d'acharnement.
D'ailleurs, Darmanin qui a répondu aux militants qui porteraient plainte pour diffamation.
Oh.
Les GG, qui a dit?
Ça se fera pas.
Qui a dit? Avant le vaccin, je n'avais rien et aujourd'hui, je me retrouve
Sébastien. Avec Sébastien.
Un pré-diabète, exactement. Bravo Bruno, Patrick Sébastien.
Non, je l'ai dit avant, excuse-moi.
Non, il l'a dit avant.
T'exagères, tu vois, Barbara.
Patrick Sébastien, lors d'une interview à Buzz TV de TV Magazine.
Je lis l'actualité.
On regarde.
Je ne suis pas complotiste, mais je regarde et je me suis aperçu, moi, avant le vaccin, j'avais rien. Je veux dire, j'ai des analyses que je vérifie régulièrement, nickel. Et je me suis retrouvé avec un pré-diabète, avec une prostatite, des trucs que je connaissais pas, tu vois, le cancer. Et à un moment, j'accuse pas, mais je me pose la question, parce qu'autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des pathologies qu'ils n'avaient pas avant.
Voilà. Mais bon.
Et une sortie, détournée ce week-end par les tweetos. Je ne suis pas complotiste, mais juste avant le vaccin, j'avais 66 ans et comme par hasard, maintenant j'en ai 68. Je ne suis pas complotiste, mais avant le vaccin, je n'aimais pas trop Patrick Sébastien et maintenant je l'aime encore moins. Et enfin, ma préférée, je ne suis pas complotiste, mais juste avant le vaccin, j'avais un mec.
Ouais, ça plaît à Barbara, la déclaration de Sébastien.
Mais non, mais c'est pas une question de ça plaît, c'est qu'il a le droit de se poser des questions, je vais te dire.
Arrêtez de fantasmer sans arrêt, les amis.
Mais
vous êtes toujours.
Écoute, je vois, tu ne poses pas de questions.
Les vaccins, on peut rien dire.
Mais c'est pas la question.
Bruno, je ne savais pas qu'il y avait une dox. Il y a plein de gens.
Mais il a peut-être attrapé tout simplement parce qu'il devait le choper.
Ils ont peut-être tort de se poser des questions. Il y a plein de gens.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il y a plein de gens qui ont le vaccin. Senti des trucs bizarres.
Il y a notamment tous ceux qui ont des myocardites qui se posent des questions.
Bah oui, c'est ça.
Et des thromboses aussi, mais bon, comme par hasard.
C'est pour ça que tu peux aller voir ton médecin et tu peux en parler.
Vous avez un côté complotiste souvent, hein, tous.
Mais non. Après, Patrick, il a fumé et il a clopé et beaucoup bu toute sa vie.
Bien sûr, mais exactement. Vous ne voulez pas le dire.
Mais tout le monde lui est tombé dessus. Je trouve ça quand même dingue dans ce pays.
En plus, excusez-moi, il l'a dit avec beaucoup de mesures. Oui. En plus, après, il a dit tout un truc sur le fait qu'il en avait discuté avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le grand docteur, lui a dit que ça n'avait pas de rapport.
Comme si toi tu le dis et comme si Alain le dit.
Il ne fait que redire
que nous jouons. Petite dernière.
Quel footballeur a posté hier sur Twitter la bande-annonce d'Astérix?
Aucune idée.
Mbappé.
Avec en légende « Vive la France ».
Griezmann.
Non, c'est un footballeur suédois. Non, mais c'est quelqu'un qui est à la
Z, mais c'est pas.
C'est Zlatan.
J'ai essayé de souffler à Bruno. Zlatan.
C'est Zlatan. Ibrahimovic.
Ah, il va jouer dedans.
C'est vrai.
Zlatan, alias Antivirus, dans le nouvel Astérix de Guillaume Canet. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, en salle le 1er février prochain. Bande annonce.
Ça crée du casque. Mais ça choupe cette histoire! Coco! Ne vous inquiétez pas, princesse.
Il va vous aider.
Bonne nuit, mon
monsieur, je sais tout.
Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain.
Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Ah, c'est bon, les légumes, c'est bon.
Alors, c'est vrai que la petite scène avec Zlatan, qui joue le rôle d'un Romain, visiblement, qui cogne sur tout ce qui passe, ça donne envie d'aller le voir.
Moi, j'irais le voir juste pour ça.
Et pour Gilles Lelouch,
ça et les Tuches, moi, je trouve que c'est du cinéma de très haut niveau. J'adore.
Gilles Lelouch en Obélix.
Ouais. Ah, mais j'adore hein, quand je dis ça. Je suis sérieux.
C'est du premier.
Non, mais,
c'est
non, mais Charles, auteurs. Ça va pas lui plaire. C'est, pas.
Pas c'est les mêmes auteurs.
Non, je pense non, que mais non, non, j'adore. C'est je regarderais. C'est oui. Arte qui produit ce film.
Non, c'est la chaîne.
Non, mais Charles est plutôt Arte d'ailleurs. Mais non, mais franchement.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, quel sujet de discussion avez-vous choisi pour les GG? On avait deux propositions. Renoncer aux illuminations de Noël au nom des économies et avoir des notes d'électricité moins élevées, ou bien la fermeture des bureaux de poste à Paris. Eh bien, on va voir quel est votre choix et on en parle dans les GG avec vous.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.